une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNBA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette année, je me suis entouré d'une team de journalistes éco pour décortiquer avec moi encore plus de sujets. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à Cathy Dogon. Elle travaille pour le magazine de pédagogie économique Pour l'éco, et cette semaine, elle va nous parler de la réforme des lycées pro. Salut Cathy.
Salut Emmanuel. Aujourd'hui, j'avais envie de poser une question. Que souhaitons-nous pour notre jeunesse? Un bagage solide pour commencer dans la vie et affronter l'avenir, ou une entrée efficace et rapide sur le marché du travail? En creux, c'est à ça que vient répondre la nouvelle réforme du lycée professionnel promise par Macron en pleine campagne électorale pour la rentrée scolaire 2023.
C'est un immense chantier pour les années qui viennent, mais le chantier du lycée professionnel, on a encore trop de taux d'échec, trop de jeunes qui sortent avec pourtant un diplôme, mais pas d'emploi, c'est pas acceptable. Et c'est une vraie injustice dès le début et qui décourage beaucoup trop de jeunes. Il faut pouvoir le faire en faisant rentrer davantage les entreprises et en permettant donc de s'inspirer de ce qu'on a fait pour l'apprentissage, rémunérer, avoir plus de temps dans l'entreprise et avoir des ouvertures de filières qui correspondent aux débouchés.
Aujourd'hui, un lycéen sur trois est inscrit en voie professionnelle, soit 627 000 lycéens professionnels dans le public et le privé sous contrat. Ce sont des jeunes hommes à 54%. Et à la rentrée 2020, dans les formations professionnelles en lycée, plus d'un élève sur deux était enfant d'ouvriers, de retraités ou d'inactifs, alors qu'il ne représentait qu'un élève sur trois dans l'ensemble du second degré. Mais voilà, en février 2020, le taux de chômage des sortants du secondaire avoisine encore les 30%, quand celui des sortants du supérieur est de 11%, alors que l'une des ambitions du lycée professionnel, c'est justement de leur permettre de s'insérer rapidement sur le marché du travail.
On a repoussé les limites, là.
Selon le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, le CEREC, au-delà du simple niveau de diplôme, un certain nombre de paramètres déterminent également les parcours en début de carrière. Comment mieux insérer les jeunes défavorisés sur le marché du travail?
Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consiste la réforme des lycées pro?
Pour comprendre, il faut revenir sur l'histoire du lycée pro. Il a été créé en 1985, notamment dans l'objectif du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, d'amener 80% d'une classe d'âge jusqu'au niveau bac. Une classe d'âge, c'est un groupe de personnes partageant un même âge et les règles sociales qui en découlent. Mais le lycée pro a aussi été créé pour répondre à une demande de l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Leur demande, c'était avoir plus d'ouvriers qualifiés. En continuant leur scolarité, les jeunes de 16 à 18 ans se forment à un métier précis, certains diront à l'intérieur de l'entreprise, d'autres sur le tas, dans les usines.
C'est vous qui voyez.
Ah bah non.
En 2009, une première réforme visait à allonger le bac pro de 2 à 3 ans pour l'harmoniser avec les autres bacs et du coup permettre aux lycéens pro d'aller dans le supérieur. Ça n'a pas franchement marché. Parce que si quelques-uns poursuivent bien après le lycée pro, ils sont nombreux à échouer, souvent en première année de supérieur, à cause d'un retard significatif dans les enseignements généraux. Céline Gasquet est directrice scientifique au CEREC. Elle a analysé ce point précis.
Dans la dernière enquête, génération 2017, donc, si on regarde tous les jeunes qui sont rentrés dans la voie pro pour aller faire leur bac pro, ben en fait, il y a trois groupes. Il y en a un tiers qui n'auront pas le diplôme. Il y en a 16% qui ont poursuivi dans le supérieur et obtenu un diplôme du supérieur. Et tous les autres, les 50%, c'est effectivement ceux qui vont arriver sur le marché du travail après leur bac pro, sachant que là-dedans, il y a ceux qui vont directement après avoir passé leur bac, mais il y a aussi ceux, c'est un peu plus de 10%, qui sont allés dans le sup et qui, là, n'ont absolument pas réussi à avoir un diplôme.
Une deuxième réforme a été portée en 2018 par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer. Le volume d'heures d'enseignement généraux est encore diminué. Jusqu'à la rentrée 2022, il y avait donc en lycée pro un tiers d'enseignement général, un tiers d'enseignement pro avec d'anciens professionnels et un tiers de temps en entreprise avec tuteur. Mais cette réforme n'a pas fait ses preuves puisque le gouvernement constate toujours un taux d'insertion insuffisant sur le marché du travail, un absentéisme et un décrochage scolaire, 20% des élèves tout de même, plus marqués qu'au lycée général et technologique, et des effectifs de la filière professionnelle en baisse constante.
Et donc il faut continuer d'ouvrir à l'entreprise nos lycées, nos collèges, pour pouvoir justement aller plus loin. Et là, il y a deux choses que je veux pouvoir faire.
Emmanuel Macron, en mars 2022 à Poissy, lors d'un meeting de campagne présidentielle.
Nous devons réformer le lycée professionnel sur le modèle de ce qu'on a fait pour l'apprentissage. C'est-à-dire réussir à avoir un partenariat beaucoup plus étroit avec les entreprises, à le faire en lien avec les entreprises, à faire que nos lycéens professionnels puissent être rémunérés pour leur temps d'entreprise, comme le sont les apprentis, on a augmenté leur rémunération, et avoir des filières dans les lycées pro, dans les lycées professionnels, pardon, qui correspondent aussi aux besoins qu'il y a derrière. On laisse vivre trop de filières où il n'y a quasiment pas de débouchés et trop de déterminisme. Et donc, on doit réussir à avoir des filières où il y a derrière des débouchés parce qu'on aura trouvé des maîtres d'apprentissage ou d'alternance qui pourront accompagner ces jeunes.
Ce discours politique est teinté d'idéologie. On va revenir sur chacun de ces points. Mais finissons d'abord notre tour d'horizon des voies pro dans le secondaire. Il existe aujourd'hui 2100 lycées qui proposent des formations professionnelles, 600 spécialités de diplôme du CAP au BTS et 14 familles de métiers en baccalauréat professionnel. Tout ça risque donc d'évoluer à la rentrée 2023. Les grandes lignes de la réforme consisteraient à renforcer les liens avec les entreprises via notamment l'augmentation de la durée des stages de 22 à 33 semaines sur 3 ans de scolarité et une meilleure rémunération des lycéens professionnels en stage. Les organisations syndicales y voient plutôt de la main-d'œuvre gratuite pour des entreprises sujettes aux pénuries. L'enjeu, c'est de s'assurer que ce temps passé en entreprise soit bénéfique. On y reviendra. Et pour ça, l'exemple que l'exécutif entend suivre, c'est l'apprentissage.
Alors justement, est-ce que l'apprentissage a fait ses preuves dans l'insertion des jeunes sur le marché du travail? Ce type de formation est-il plus efficace que les lycées pro?
Céline Gasquet.
En fait, pour l'instant, tous les travaux qui comparent les apprentis aux scolaires, premièrement, tous les travaux ils montrent que l'apprenti a de meilleures conditions d'insertion professionnelle, quand on regarde le temps d'accès à l'emploi, le temps passé en emploi, le CDI.
Selon une étude d'Éric Coulanté-Vélou publiée à la DARES, 3 ans après leur sortie du lycée, les bacheliers pro avaient passé en moyenne 10,6 mois au chômage, contre 8,3 pour les sortants d'apprentissage. Et 5 ans après avoir quitté la scolarité, cette situation favorable sur le marché de l'emploi se renforce pour les apprentis.
Grosso modo, en moyenne, voilà, c'est plutôt mieux pour les apprentis. Mais peut-être 2 nuances à ça. La première, c'est qu'il faut que l'apprenti soit maintenu dans l'entreprise où il a fait sa formation. Et la deuxième, c'est qu'il faut que l'apprenti exerce un métier en lien avec sa spécialité de formation. Si je le dis autrement, si l'apprenti, à la fin de sa formation, il n'est pas conservé, maintenu dans l'entreprise où il a fait son apprentissage, s'il ne se retrouve pas à exercer un métier directement en lien avec sa spécialité de formation, alors son avantage, sa plus-value par rapport au scolaire, elle disparaît.
Ce qui pose la question de l'importance de l'enseignement théorique général. Alors que l'apprentissage s'inscrit plutôt dans une logique de transmission des savoir-faire et vise une adaptation directe à un emploi, le lycée professionnel, lui, permettrait plus de polyvalence et une capacité d'adaptation accrue sur différents types d'emplois. Mais avec les réformes successives, l'enseignement général tend à diminuer en lycée pro, alors que c'est justement lui qui permet cette adaptation. De 3 heures de français, histoire-géographie, enseignées en 2018, on est passé à 1h30 à la rentrée 2022. Et ce temps va encore être réduit. La Fondation Jean Jaurès, proche du Parti Socialiste, appelle donc à mettre en place un vrai enseignement des matières générales. Par exemple, selon elle, l'absence de philosophie en lycée professionnel envoie un message limpide aux élèves. Je cite, « On veut nous envoyer à l'usine, donc inutile de nous apprendre à penser. » Céline Gasquet tient à nuancer cette hypothèse.
Ça dépend à mon avis des spécialités et en plus, tout l'enjeu c'est aussi de savoir, c'est le distinguo entre des compétences spécifiques et des compétences transférables et malgré tout, il y a des compétences métiers qui sont aussi transférables d'un métier à un autre. Sur le papier, en tout cas, on sait que avoir une expérience professionnelle, ça permet l'acquisition de compétences pratico-pratiques liées à l'activité de travail. Ça permet plus largement une acculturation au fonctionnement de l'entreprise dans laquelle on est et plus largement au monde du travail. Et surtout, ça permet la construction d'un réseau professionnel. Et ça, on sait que le réseau est une des premières moyens d'obtention d'un emploi.
C'est l'autre point important de cette réforme, renforcer le lien avec l'entreprise. Mais dans les faits, le lycée, les professeurs n'ont qu'une très faible visibilité sur la qualité du suivi en entreprise et très peu de marge de manœuvre. Céline Gasquet.
C'est bien joli de passer du temps en entreprise. Si on veut que ça serve à quelque chose en termes d'acquisition de compétences, ben, il faut peut-être que ça se déroule dans certaines conditions. Il y a 70% des jeunes salariés qui ont été interrogés et qui disent qu'ils apprennent avant tout de manière informelle auprès des collègues. C'est-à-dire qu'il y a des contextes qui sont plus ou moins propices aux apprentissages informels, notamment des contextes de décloisonnement de travail, de temps réflexible, de dialogue, de partage de l'information, etc. Il y avait un élément qui était extrêmement important, c'était en fait la première expérience vécue par ces jeunes-là. Et plus cette première expérience était de qualité, entre guillemets, en termes de contrat de travail ou de temps de travail, plus les jeunes restaient. Autrement dit, le fait de pas s'inscrire dans une espèce de continuité logique par rapport à sa spécialité de formation, ça peut être lié à la formation au niveau de diplôme, à la voie scolaire ou apprentissage, mais ça peut aussi être lié aux expériences qu'ils ont connues. Quand même, qu'il faut pas oublier, c'est que les bacs pro, ils vont pas tous aller sur le marché du travail. Il y en a une partie non négligeable qui va poursuivre ses études. Il y a entre 2010 et 2020 deux fois plus de bacheliers professionnels qui se retrouvent dans l'enseignement supérieur.
Or, seulement 16% des bacheliers pro ont poursuivi dans le supérieur et obtenu un diplôme. Éric Charbonnier est analyste à la direction de l'éducation de l'OCDE. Il soulève dans les faits un gros problème français et tient à apporter une comparaison internationale sur ce point.
Si vous regardez des pays voisins, l'Autriche, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, quand on est dans une filière professionnelle au niveau du lycée, on aura des possibilités de poursuivre les études jusqu'au niveau master si on le souhaite, avec des spécialisations dans certaines branches, des instituts techniques et professionnels qui permettent à ces jeunes, justement, de n'être pas limités à une recherche d'emploi à la fin d'un équivalent bac professionnel, avec des opportunités, et ce qui va créer en même temps de la vocation. C'est-à-dire, sur certains métiers aujourd'hui, on a besoin d'une vraie spécialisation, d'un diplôme de l'enseignement supérieur pour s'insérer. Voilà, en France, nos jeunes, s'ils vont à l'université, parfois, même si on a mis des quotas, ils ont du mal à trouver des places dans les IUT. Voilà, donc il faut aussi investir pour leur offrir de meilleures opportunités de poursuite d'études.
En fait, ça signifie que dans le supérieur, les bacheliers pro ont du mal à réussir leurs études. D'ailleurs, c'est même vrai dans les BTS et les IUT, qui sont pourtant des formations techniques.
Et ce n'est pas qu'une question de moyens, parce que la France investit dans l'éducation. L'éducation pèse 7% du PIB en 2020, soit 160,6 milliards d'euros. C'est plus ou moins que nos voisins de l'OCDE pour les lycéens professionnels. Éric Charbonnier.
Dans tous les pays, on dépense plus pour les bacheliers pro que les bacheliers généraux, mais en France, on dépense vraiment beaucoup plus. Et d'un point de vue général, la dépense par élève au lycée, donc toute filière confondue, en France, elle est 30% supérieure à la moyenne des pays de l'OCDE.
Le problème, ce n'est pas qu'on manque d'investissement, mais on n'investit pas de la bonne manière. La France dépense 15 000 euros par an pour un lycéen en général, 17 000 euros par an pour un lycéen en filière professionnelle. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est 10 000 pour le général et 12 000 pour la filière pro.
On a surinvesti dans nos lycées. Et on a de l'argent dans les filières professionnelles. On a de l'argent, elles sont coûteuses, on a des branches, on a des équipements. Voilà, et donc on ne peut pas se dire qu'on a sous-investi dans cette branche, mais maintenant il faut les valoriser et puis rehausser la qualité aussi des formations. Quand on critique, nous, l'OCDE, le problème, la nécessité de faire évoluer le métier d'enseignant, ben, c'est aussi quelque chose qui est important pour la voie professionnelle. Si vous allez en Allemagne, il y a énormément d'enseignants dans les filières professionnelles qui sont des enseignants à temps partiel et le reste de leur temps, ils travaillent dans une entreprise où on a beaucoup de possibilités pour ceux qui sont tout le temps à l'école d'avoir des opportunités de développement professionnel dans les entreprises pour les enseignants. Voilà, il faut aussi que les enseignants puissent avoir la bonne formation et les possibilités de développer leurs compétences, parce que finalement, les compétences techniques et professionnelles, elles évoluent très rapidement aujourd'hui.
D'ailleurs, le budget de l'éducation nationale est en hausse de 6,5% pour 2023, et ça fait suite à une augmentation de la rémunération du personnel. L'actuel gouvernement prend enfin en considération cette question, alors que la rémunération des profs, y compris dans les filières pro, stagnait depuis 20 ans.
Ah bah c'est pas trop tôt !
Alors Éric Charbonnier est catégorique sur l'endroit où il faut flécher ses investissements.
Vers la formation des enseignants, vers aussi la valorisation. On doit sensibiliser les familles, les élèves à l'intérêt de la voie professionnelle et peut-être cet argent doit aller pour développer les possibilités de poursuite d'études. Se dire que la voie professionnelle, ben, ça commence au lycée et ça peut continuer jusqu'au master aujourd'hui dans certaines branches avec des formations qui feront des vrais professionnels aguerris qui soient très spécialisés sur certains domaines.
Justement, quels sont ces domaines ? Est-ce que ce serait une bonne stratégie sur le long terme d'adapter l'offre de formation aux besoins des secteurs qui peinent à recruter ?
Réécoutons ce passage de l'intervention de Macron, parce qu'il est crucial.
Et donc, on doit réussir à avoir des filières où il y a derrière des débouchés.
Le risque, soulevé par les syndicats de professeurs, former les jeunes aux métiers dont le territoire a besoin à une date donnée, et non plus selon l'aspiration des élèves. C'est France Compétences qui fait ces arbitrages. L'initiative par des branches professionnelles, qui sollicitent le ministère de l'Éducation nationale pour la création ou la révision de diplômes. Ils négocient entre eux pour établir des priorités, vérifier l'adéquation des besoins en main-d'œuvre avec le profil du public cible, et une fois acté, la préparation du programme scolaire prend généralement 18 mois. Une fois établi, les partenaires sociaux spécifiques à la branche se réunissent au sein de la Commission professionnelle consultative de France Compétences et rendent leur avis. Enfin, les diplômes sont enregistrés pour une durée de 5 ans, après quoi ils doivent être révisés par les partenaires sociaux. Aujourd'hui, au sein de l'OCDE, c'est dans le domaine de l'ingénierie, des industries de transformation et de la construction que l'on trouve le plus de bacheliers professionnels. Viennent ensuite le commerce, l'administration, le droit, les services et la santé et la protection sociale. La France enregistre un classement identique et en 2022, par exemple, deux bacs pro ont été créés. Transport par câble et remontée mécanique et système photonique.
Jean-Pierre ? Vous avez répété la question ?
Oui, non.
C'est-à-dire la conception, la réalisation et la maintenance d'appareils de technologie optique. Dans ce dernier secteur, les entreprises peinent à recruter et mettent en moyenne 4,6 mois pour trouver un profil répondant à leurs besoins sur les postes juniors non expérimentés. La filière prévoit d'embaucher 24 000 personnes entre 2024 et 2026, dont 14% en bac pro. Mais attention à ne pas aller non plus trop vite en besogne. Il y a quelques mois, on aurait pu penser par exemple que créer une filière dédiée au métaverse serait une bonne idée.
À la boulette.
Mais avec du recul, maintenant, on est en droit de se demander si on ne les aurait pas envoyés directement dans le mur. À l'inverse, les professionnels de la santé demandent depuis 5 ans la création de diplômes tels qu'un CAP dédié au grand âge, qui ne voit pas le jour. Là, la problématique avancée par France Compétences se situerait plutôt autour de l'âge. Le marché du travail a certes besoin de ces professionnels spécialisés, mais est-ce qu'on les embauchera s'ils sortent diplômés à l'âge de 18 ans ? D'autres enjeux s'insèrent aussi dans les négociations. La création d'un diplôme demande de grands investissements. Sera-t-elle finalement rentable en termes financiers et en termes de mobilisation de ressources ? Je m'explique. L'effectif de professeurs en lycée professionnel est a priori stable, donc il faut choisir quelles sont les priorités de formation. Céline Gasquet introduit un dernier biais.
C'est que c'est pas parce qu'on est formé à un métier qu'on va exercer ce métier-là. C'est-à-dire que la correspondance entre la formation et le métier n'est pas toujours là. Or, évidemment, parce que ça serait beaucoup plus simple, on a souvent tendance à vouloir faire en sorte que ça se passe comme ça. Et on a regardé, par exemple, pour les jeunes qui sont formés au métier de bouche, 66% d'entre eux, pour le premier emploi, vont effectivement avoir un emploi directement lié à leur spécialité de formation. Ça descend à 57% au bout de 3 ans. On a regardé pour la transport et logistique, hein, c'est des formations où il y a des bacs pro, transport et logistique. 59% exercent un métier en lien avec leur formation pour leur premier emploi et on descend à 54 à 3 ans.
Une autre stratégie consisterait à faire coïncider les formations, non pas avec les besoins des entreprises, mais avec les envies des jeunes.
Et ça remplirait d'autres objectifs, comme notamment lutter contre le décrochage scolaire et donc amener certaines et certains plus haut grâce à un ascenseur social qui fonctionnerait.
Oui, Emmanuel, parce que le lycée pro est encore stigmatisé. Comme je le disais en introduction, la moitié des classes en lycée pro est composée d'élèves défavorisés, c'est-à-dire enfants d'ouvriers, de retraités ou d'inactifs, alors qu'ils ne représentent que 30% des filières générales et techniques. Or, selon le PISA 2019 de l'OCDE, la France reste le pays de l'OCDE où l'origine sociale a le plus fort impact sur les résultats scolaires. D'autant plus que malgré leur motivation, les jeunes qui postulent en entreprise sont soumis à des discriminations liées au genre, à l'appartenance ethnique ou à l'origine sociale. Le milieu social peut témoigner du manque de codes, de conventions ou du réseau relationnel, voire des moyens de locomotion et peut-être un handicap. C'est donc un enjeu majeur que de parfaire leur formation pour leur permettre de grimper dans l'ascenseur social.
On a un problème de valorisation de la voie professionnelle qui est beaucoup plus importante qu'ailleurs, c'est-à-dire que souvent, l'orientation vers les filières professionnelles, c'est une orientation par l'échec. On le retrouve dans une statistique qu'on avait publiée dans Regards sur l'éducation 2018, où on avait pu voir que quand on a regardé le niveau d'éducation des parents, des enfants qui sont scolarisés dans les filières professionnelles au niveau du lycée, on a constaté qu'il y avait simplement 13% des parents qui avaient obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur. Quand on regarde la scolarisation dans les filières générales et technologiques, la proportion des parents avec au moins des deux parents diplômés de l'enseignement supérieur monte à 50%. Dans les pays nordiques, la voie professionnelle, elle est très présente dans tous les cursus au niveau du collège. Donc ça veut dire que les jeunes, ils ont déjà une vision professionnelle de leur avenir, qu'ils soient très bons élèves ou qu'ils soient élèves en difficulté.
Pour créer des vocations et éviter le décrochage scolaire, la Fondation Jean Jaurès recommande de créer des filières d'abord attractives pour les élèves, comme les métiers des médias, de la communication, du sport, des solidarités, du jeu vidéo, de la mercatique, de la musicologie, du juridique ou encore du web. Céline Gasquet.
Il existe maintenant il y a des configurations qui sont intéressantes. C'est les campus des métiers et des qualifications qui sont en fait des regroupements de formations, à la fois formation initiale et formation continue, qui vont du secondaire au supérieur et dans lequel les acteurs économiques, entreprises ou branches sont très impliqués et sur un territoire délimité, où on peut imaginer que cette configuration de co-construction de l'offre où l'acteur économique est vraiment impliqué, on peut imaginer que par ce biais-là, on arrive le mieux possible ou le moins mal possible à construire une offre pertinente pour le territoire.
En clair, la réforme 2023 va encore affaiblir les connaissances générales des lycéens en voie professionnelle, limitant encore plus leur accès aux études supérieures. Si l'emploi leur est accessible dans un premier temps, ils ont ensuite plus de mal à s'adapter sur le marché du travail. Mais alors cette réforme ne serait-elle pas court-termiste et dans le simple intérêt des finances publiques ?
Merci Cathy pour cet épisode qui montre finalement que les futurs ouvriers et employés ne sont pas la priorité des réformateurs de l'éducation nationale. On aura beau chercher à revaloriser les formations professionnelles, tout ne se joue pas sur leur image, en particulier auprès des familles et des élèves. Pour que ces filières deviennent plus attirantes, il faudrait qu'elles aboutissent à des emplois plus gratifiants et plus rémunérateurs, et si possible avec une diversité de compétences. On voit d'ailleurs bien la différence dès maintenant entre les bac pro chaudronnerie qui trouvent sans problème du boulot dans l'industrie, dès leur bac, et ceux des métiers tertiaires où les emplois sont bien moins rémunérateurs. Bref, si l'on veut vraiment travailler à une meilleure insertion professionnelle des jeunes, il faudra un jour revoir toute l'organisation des filières pro depuis le recrutement des enseignants et des enseignantes jusqu'à la formation professionnelle continue dans l'industrie et les services. Vaste chantier. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, cela nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast produit par Nouvelles Écoutes, écrit et animé par moi, Cathy Dogon, en compagnie d'Emmanuel Martin, chargée de production Mathilde Jonin, avec l'aide de Neila Acmi, prise de son, montage et mixage Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio, directrice des productions Marion Gourdon.